Mes frères bien-aimés, j'espère avant tout que vous êtes heureux d'être ici ce matin, dans cette belle église Saint-Nicolas de Meursault. Il faut vraiment que le dimanche soit un jour de grande joie pour nous. Aussi, en sautant de votre lit, non pas parce que vous débordez d'énergie, mais parce qu'il est 10h30 et que la messe commence dans une demi-heure, faites également sauter votre cœur vers notre bon Père du ciel et dites-lui « Oh, que je suis content de me réveiller en ce jour qui est le vôtre, Seigneur !» Nous allons fêter la résurrection de votre Fils qui nous a rouvert les portes de votre paradis. Merci, merci, merci. Mais au-dessus de tout, ce qui me transporte au septième ciel, c'est tous ces paroissiens que je vais retrouver à la messe. Oh, que j'ai hâte de rejoindre la doyenne de la paroisse, Madame Durand, qui à chaque fois, parce que Madame sait tout mieux faire que tout le monde, remet en cause ma manière d'éduquer mes gosses, dont le bruit dérange les appareils auditifs. Oh, que j'ai hâte d'écouter brailler cette brave Georgette, qui trouve toujours le moyen de se mettre devant derrière moi et dont la voix est aussi charmante qu'un fumeur au réveil. Oh, et s'il pouvait y avoir Robert, l'entrepreneur miracle à qui tout réussit et qui aime à me rabaisser devant ma femme en montrant des photos de sa nouvelle voiture ou en narrant le dernier voyage qu'il a offert à son épouse aux Maldives, alors là, Seigneur, mon ravissement serait à son apogée. Ah, si seulement le dimanche pouvait revenir tous les jours, mon Dieu. Allez, mes frères, mettons un peu d'humour dans tout ce que nous vivons, même et surtout dans les situations un peu rébarbatives de nos existences, et les choses perdront alors un tout petit peu de leur pesanteur. Et quand vous accosterez Madame Durand, Georgette ou Robert, durant les premières secondes au moins, vous rirez intérieurement et vous tiendrez plus facilement la rencontre. Bon, tout cela est parfait, mais quittons maintenant ces paroissiens tant aimés et tournons-nous vers le Christ, qui est tout de même la raison de notre liturgie. Mais avant de nous plonger dans le texte évangélique, je voudrais rappeler des vérités sur le Christ qui sont plus qu'évidentes, mais qu'il nous faut avoir à l'esprit pour saisir le caractère surprenant de l'épisode que nous venons de parcourir. Tout d'abord, Jésus est Dieu. Nous le savons et on nous l'a répété des milliers de fois, donc ça ne nous aime plus. Mais cela veut dire qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais un être de sa trempe, aussi intelligent que lui, aussi beau que lui, aussi charitable que lui. Ensuite, Jésus est le Verbe de Dieu. Aussi, à peine ouvre-t-il la bouche que les auditeurs sont envoûtés par lui. Je crois que nous n'imaginons pas les foules qu'il a déplacées. Il vidait littéralement des régions entières, alors que certaines personnes avaient parfois une journée de marche. Même Lady Gaga, en venant au stade de Dijon, n'arriverait pas à vider Meursault. En outre, Jésus est Fils de Dieu. Par conséquent, il possède tous les pouvoirs de son Père. Au moindre petit doigt levé, il fait parler les muets, il rend la vue aux aveugles, il fait entendre les sourds, il guérit n'importe quelle infirmité, et il libère les possédés. Je m'arrête là dans la liste des titres attribués au Christ, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a affaire à un homme ayant tout pour lui, à un homme avec une aura unique, en un mot, à l'homme le plus sublime que la terre ne connaîtra jamais. Eh bien, voyez-vous, malgré cela, alors qu'il vient d'annoncer à ses disciples qu'il va devoir souffrir avant de ressusciter, Pierre n'a pas peur de le prendre à part, par le col pour ainsi dire, et de lui faire de vifs reproches. Alors là, les bras nous en tombent, parce qu'avec les puissants de ce monde, ce n'est normalement pas ainsi que l'on agit, c'est bien plutôt tout le contraire. Concevons que M. Macron passe par Meursault. Eh bien, essayez de le prendre à part et de lui dire vos quatre vérités. Vous pouvez être sûr que les gentils et grands bisounours de la sécurité vont vous soulever avec un bras et vous déplacer à quelques mètres du président. Et cela vaut pour les rois, les princes, les ministres, les grands chefs d'entreprise, les stars, et j'en passe. En ce qui concerne notre Seigneur, comme nous venons de le voir, les choses ne se déroulent pas de la sorte. Il n'y a pas de dispositif de sécurité autour de lui. Mais surtout, si Saint-Pierre se permet de dire si facilement ce qu'il pense à son maître, c'est que ce dernier a une attitude qui favorise la simplicité et la franchise, au contraire des grands de ce monde, qui entretiennent souvent une posture hautaine face aux petits qui viennent les déranger. Eh bien, si nous ne voulons pas que l'hypocrisie fleurisse autour de nous, Si nous voulons éviter d'avoir des relations où ne nous savons jamais si c'est du lard ou du cochon, il faut que nous adoptions la même conduite que notre maître. Et alors, nous pourrons obtenir ce qui, comme le relevait l'écrivain français Éloi Leclerc, nous rend profondément heureux, des amitiés réelles, désintéressées, sans condescendance, faites de confiance et d'estime profonde. Dès lors, permettez que je fustige certaines de nos manières de faire qui n'aident pas notre entourage à être sincère avec nous, mais qui le forcent presque à toujours nous brosser dans le sens du poil, à toujours faire semblant d'être en accord avec nous. Il y a tout d'abord cette fâcheuse tendance qui touche la majorité d'entre nous et qui consiste à se mettre en colère, ou du moins à ne pas être agréable lorsque l'on nous réprimande, ce qui est, avouons-le, jamais appréciable. Par exemple, votre épouse émet une critique ou une petite observation sur votre travail et vous rétorquez « De toute façon, tu n'y comprends rien dans ces affaires. Reste dans tes casseroles, dans tes balais et dans ton boulot d'enseignante et laisse-moi tranquille pour le reste. » Et d'ailleurs, j'aimerais bien t'y voir, toi, à ma place. C'est facile de critiquer quand on n'est pas dedans. Mes frères, je suis un peu caricatural, mais pas tant que ça. En tout cas, si nous sommes susceptibles, et qu'au moindre refus, qu'au moindre reproche, qu'à la moindre contradiction, on monte sur ces grands chevaux, c'est normal que tout le monde devienne artificiel autour de nous. Un autre cas tout à fait typique est quand vous mettez une telle pression sur la personne en face de vous qu'elle ne peut qu'aller dans votre sens. Ainsi, vous accueillez un couple d'amis à dîner, tout se passe merveilleusement bien, et en amenant le dessert, vous dites avec fierté à vos invités « Ah, pour vous, j'ai cuisiné ma spécialité. Je la fais depuis des années, tout le monde en raffole. Faut dire aussi que ça me prend 3 jours pour arriver à ce joyau. » Et avant même que vos invités aient pu mâcher leur première bouchée, vous leur dites « Alors, il est dingue, n'est-ce pas, ce croquant aux amandes ?» De son côté, ce pauvre couple se sent pris en otage. Et il sent bien que s'il vous avoue que votre gâteau est dur et immangeable, il va détruire tout un pan de votre existence et vous allez tomber dans une petite dépression. Donc, l'un des deux vous dira, après avoir tout de même avalé la bouchée, pour donner un peu de crédit à son verdict, « Ah non, mais franchement, même au ciel, on n'aura pas de si bon dessert. » Enfin bref, si nous voulons que les gens soient naturels, laissons-les libres et ne leur imposons pas un chantage affectif. Dans le même ordre d'idée, on peut instaurer une dépendance matérielle par rapport à quelqu'un et contraindre ce dernier à nous soutenir en tout. Imaginons que vous ayez un beau compte bancaire, ce qui est tout à votre honneur, et que vous soyez généreux, ce à quoi je ne peux que vous encourager. Prenez garde à la manière avec laquelle vous dispensez votre argent. Il ne faudrait pas que la personne aidée se retrouve emprisonnée dans une sorte de mainmise matérielle et qu'elles doivent vous suivre comme un petit chien. Car tout ce que nous faisons, même la charité, doit apporter la liberté intérieure, que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Un autre procédé qui ne porte aucun fruit est celui de la violence, qu'elle soit physique ou morale. C'est le cas de ces deux parents qui, alors qu'un de leurs enfants a mangé une grosse part du gâteau qui était prévu pour l'anniversaire du petit frère, se mettent à interroger chacun de leurs bambins. Ils s'approchent donc du premier, qui est âgé de 10 ans, la mère avec le rouleau à pâte dans la main, le père avec le martinet dans le dos, et ils lui disent « Mathieu, dis-nous, est-ce que c'est toi ? N'aie pas peur, nous sommes ton papa et ta maman, nous ne te ferons pas de mal. » « C'est ça, oui, le petit n'est pas dupe. Aussi, il tremble comme jamais, et sauf exception, va dire non. » Là encore, n'en soyons pas offusqués. Personne n'aime la douleur et tout le monde fait son possible pour l'éviter à tout prix. Donc si nous la promettons à ceux qui ne diraient pas ce qu'il faut, c'est certain qu'ils vont dire ce qu'il faut dire, même s'ils ne le pensent nullement. Mes frères bien-aimés, nous n'allons pas passer la matinée là-dessus, à chacun de voir ce qui, dans ses attitudes, favorise plutôt l'hypocrisie que l'honnêteté. Ce problème peut vous paraître accessoire et vous pourriez vous dire « Qu'est-ce que j'en ai à carrer que les autres soient entiers ou non, si du moins de mon côté, je m'efforce de l'être ?» Pourtant, nous ne pouvons pas réfléchir ainsi, car nous sommes responsables des comportements que nos actes induisent chez les autres. Si dans notre relation qui nous unit aux autres, nous les obligeons ou du moins influençons fortement, à aller vers le mensonge plutôt que vers la vérité, nous en serons redevables devant Dieu. Ce n'est pas chacun pour soi dans l'Église, bien au contraire. Nous sommes tous dans le même bateau. Et quand l'un coule, les autres coulent. Et quand l'un s'élève, les autres s'élèvent. Aussi, afin que la bonne foi circule davantage entre nous, et que nous arrêtions de feindre des sentiments les uns devant les autres, soyons simples comme le Christ le fut. Même si nous avons de grandes responsabilités ou d'immenses talents, acceptons que notre entourage nous reprenne, même en public, sur notre manière de travailler, de gérer notre argent, d'éduquer nos enfants, de tenir notre maison, de nous nourrir ou encore de conduire. À condition, bien évidemment, que ces remarques soient faites de manière humaine et non humiliante. Permettons également à ceux que nous côtoyons de ne pas être emballés par la moindre chose que nous faisons et laissons-leur nous dire bien franchement « Je ne suis pas fan de votre peinture » ou de votre vin. Et alors, nous grandirons tous dans l'humilité et nous nous rapprocherons du cœur de Dieu qui est doux et humble. Amen.